driver of its economy.
Dans Entrepreneurs, on parle innovation.
Investigation, más desarrollo, más innovación.
Vous écoutez les échos de l'innovation.
Vous écoutez les échos de l'innovation.
La musique que vous venez d'entendre est une composition écrite dans le style musical de Frédéric Chopin. La seule différence avec les nombreuses autres musiques inspirées par ce compositeur, c'est qu'elle n'était composée par personne. Enfin, personne d'humain. Cette musique a été entièrement réalisée par une intelligence artificielle. Largement visible sur les réseaux sociaux, les IA génératives se développent à grande vitesse. On entend sans même s'en rendre compte des musiques entièrement composées par IA. On visionne des images et des vidéos au rendu de plus en plus réalistes, et donc trompeurs, générées à partir de simples phrases. Mais comment ces intelligences artificielles parviennent-elles à générer un contenu aussi réaliste? Et cette prolifération de contenus générés par IA, notamment sur les sociaux, interroge. Qu'en est-il de l'authenticité artistique, de la propriété intellectuelle et de l'avenir des professions créatives? Bienvenue dans ce second épisode des Échos de l'innovation sur 94.9 FM, pardon, Graphite. Cet épisode consacré aux intelligences artificielles. Je suis accompagné de Pierre-Louis.
Enchanté.
Et de Tao.
En santé.
Merci à vous deux. Et avant toute chose, j'aimerais poser des questions aux principales intéressées. Bonjour et bienvenue, monsieur ChatGPT. Comment allez-vous?
Bonjour. Je vais très bien, merci. Enfin, aussi bien qu'une intelligence artificielle puisse aller. Je suis prêt pour nos échanges, alors n'hésite pas, posons-nous de bonnes questions.
Tout d'abord, que pensez-vous du développement des IA génératifs dans le monde?
Les IA génératifs transforment profondément notre rapport à la création. Elles permettent à des personnes sans formation technique ou artistique de produire des textes, des images, de la musique, voire des vidéos. C'est une démocratisation très puissante. Mais en parallèle, elles soulèvent des questions sur l'authenticité, le droit d'auteur et l'impact sur les métiers créatifs. On est à une période charnière où ces outils peuvent être aussi bien des leviers d'expression que des sources de tension.
Les IA progressent rapidement. Pensez-vous que cette progression va continuer à cette vitesse?
À court terme, oui. Les modèles s'améliorent constamment et l'intégration dans des logiciels et services devient de plus en plus fluide. Mais il est possible qu'on atteigne bientôt un plateau technologique temporaire, où l'on aura besoin de nouvelles idées fondamentales pour franchir certains caps. Cela dit, même une progression moins rapide restera impressionnante pour le grand public.
Et pensez-vous que les IA mettent en danger certains métiers créatifs, comme les illustrateurs, musiciens, scénaristes, etc.?
Oui, il y a un impact réel, surtout sur les métiers précaires ou en début de carrière. Par exemple, des entreprises peuvent préférer une image générée par IA à une illustration payée à un freelance. Mais cela ne signifie pas la fin de la création humaine. Au contraire, ça redéfinit les rôles, les artistes humains peuvent se concentrer sur l'intention, le style personnel, l'émotion, ce que l'IA ne fait pas naturellement. Le danger vient surtout de l'usage qu'on fait de l'IA, pas de l'IA elle-même.
Et d'après vous, est-ce que les images, vidéos et musiques conçues par IA seraient de l'art?
C'est une question presque philosophique. Si on considère que l'art, c'est transmettre une émotion, une intention, une vision, alors l'IA, qui n'a ni conscience ni émotion, ne fait pas de l'art au sens traditionnel. En revanche, elle peut produire des œuvres esthétiques, puissantes et inspirantes. Et surtout, quand elle est utilisée comme un outil par un humain, le résultat final peut tout à fait être de l'art parce qu'il y a une intention humaine derrière.
Je pense que nous pouvons conclure cet échange. Avez-vous un dernier mot?
Merci à toi pour ces questions pertinentes. C'était un vrai plaisir d'échanger. Je te souhaite une très bonne soirée et plein de réussite pour ton podcast. À bientôt.
À bientôt. Je pense que maintenant, on va pouvoir vous parler des différentes IA génératifs. Je pense que Pierre-Louis, tu voulais nous dire quelque chose à propos de ça?
Comme on l'a compris plus tôt et comme nous en avions parlé dans notre dernière émission sur les IA décisionnelles, il y a plusieurs types d'IA et au sein des IA génératives, il y a plusieurs types d'IA génératives. Les plus connues sont les IA génératives de texte. Comme ChatGPT, leur but est de générer des textes variés qui peuvent aller de la recette de cuisine à la dissertation de philo. Mais on trouve aussi des IA capables de générer des images, des musiques, des vidéos, du code informatique et même certaines IA spécialisées en biologie et en chimie peuvent générer des protéines, des molécules et autres. Finalement, les IA peuvent générer un peu tout et n'importe quoi, de la liste de courses hebdomadaires à l'introduction d'un mémoire d'un étudiant en master de biochimie. Mais donc, comment marche-t-elle? Et pour ce, je vais vous laisser Tao expliquer le fonctionnement d'une IA générative.
Il faut savoir qu'il y a une différence entre l'IA liste classique et l'IA génératif. L'IA classique sert en général à la détection des motifs, la classification et la prédiction de données. L'IA génératif est en fait objectif de générer de nouvelles données à partir de données simples et fonctionnement via un principe de deep learning. Vous avez peut-être déjà entendu ce thème. Ce principe utilise un réseau neuronal numérique qui reproduit le fonctionnement du réseau neuronal humain grâce à des fonctions mathématiques.
D'ailleurs, les différents types d'IA génératifs, donc texte, image, vidéo, etc., elles diffèrent en fonction de la structure dans leur réseau neuronal. Ces réseaux, ils sont d'abord construits avec toutes les connexions les formant entre les différentes neurones. Puis après, les IA sont nourries des milliards de données correspondant à environ ce qu'elles devraient générer. Et lorsqu'elles mettent ces données dans le système neuronal, cela leur permet de privilégier certains chemins neuronaux. Ces chemins neuronaux préférentiels permettent ainsi à l'IA de choisir les réponses les plus appropriées lors des différentes demandes faites par les utilisateurs. Ce que je viens de vous expliquer n'est bien sûr qu'une vulgarisation, mais cela vous donne une idée de la complexité de la tâche. Créer une IA générative, c'est tenter de reproduire artificiellement une partie du système qui constitue notre esprit même. Je pense maintenant aussi qu'on peut parler des IA génératifs, créer des œuvres que certains qualifient d'artistiques, et je pense que le débat sur l'art, ça peut être quelque chose d'intéressant.
Suite à l'arrivée de ces intelligences artificielles, de nombreux utilisateurs se sont qualifiés d'artistes IA ou parlant des sommets d'art IA. Mais est-ce que vraiment le cas? Est-ce que les créations des IA génératifs sont des arts? Et puis, qu'est-ce que l'art? Qu'en pensez-vous, monsieur?
Je vous remercie, Tao, pour cette question. Et personnellement, il me paraît évident que les intelligences artificielles créent de l'art. Nous sommes tous d'accord pour dire que chaque jour, nous voyons de nouvelles images, vidéos et musiques qui sont toujours plus impressionnantes, réalistes et belles. Cela touche de nombreuses personnes et le but de toucher, de venir provoquer une émotion, n'est-ce pas ça le but de l'art? Et ici, je pense que nous sommes en plein dedans.
Je pense que c'est un peu plus complexe que simplement dire « des gens ont été touchés par cela, donc c'est de l'art ». La définition de ce que c'est de l'art, ça a toujours été un débat assez houleux, et il n'y aura sans doute, je pense, jamais de consensus précis. Néanmoins, si l'on regarde les différentes définitions, il y en a eu plusieurs, faites par plusieurs théoriciens de l'art tout au cours de l'histoire, on peut trouver des points communs entre ces définitions, comme le fait que l'art est une activité créatrice, permettant de manifester un certain sens du goût, un sens esthétique, une opinion. Tous ces messages, ils sont directement liés à votre expérience humaine, vos sentiments, votre vécu. Ils ne viennent pas de nulle part. Et tout ce vécu, toute cette expérience qui fait de vous, je pense, un être humain, les IA n'en sont pas capables. Ils ne sont pas capables d'une telle réflexion. Elles ne vivent pas, elles ne ressentent pas. De plus, je vous ai dit que l'art, c'était une activité créatrice. Mais les IA n'ont jamais rien créé à proprement parler. Elles copient uniquement. Elles sont gavées de données, d'images, et apprennent à les reproduire. C'est du recopiage, pas de la création originale.
Il me semble que votre réflexion, excusez-moi, s'arrête un peu précocement. Et me paraît un peu simple d'esprit. Une IA fait bien plus que recopier. Elle étudie des dizaines de milliers d'œuvres afin de s'inspirer d'elles. Vous avez raison. Mais elle recopie plus ou moins les styles graphiques qu'elle a étudiés. Et n'est-ce pas d'ailleurs ce que font tous les artistes humains? Tous les artistes, au cours de l'histoire, se sont inspirés de leur père. Aucune œuvre n'est vraiment totalement originale. Les IA ne font que pousser cette inspiration à un stade supérieur, étant capables d'analyser des centaines de milliers d'œuvres. Mais la logique de l'inspiration reste la même. Étudier une œuvre, s'en inspirer pour en créer une nouvelle. Et d'ailleurs, s'inspirer d'autres œuvres artistiques, c'est ce qui fait de l'art en lui-même. Personne ne reproduit, mais tout le monde s'inspire des créations passées.
Je pense pas, comme je l'ai dit plus tôt, que recopier simplement, on pourrait dire, ce qui fait de quelque chose de l'art, donne forcément à la création qui en découle une valeur artistique. Je pense que c'est bien plus compliqué, et ce qui fait d'une œuvre artistique de l'art est beaucoup moins tangible que ce que vous laissez penser. Alors, oui, c'est vrai, chaque artiste est forcément, à un moment de sa carrière, a été inspiré par un de ses pairs. Mais ce n'est pas la seule partie du processus de création artistique. Chaque artiste mettra dans ses œuvres une part de son vécu. C'est cela, d'après moi, qui rend l'art si vivant, si intéressant, et qui nous permet de ressentir des émotions. Les intelligences artificielles, elles, ne produisent des œuvres que le côté esthétique, que la direction artistique, que le style dont ils s'inspirent. Il n'y a pas de message dedans. L'art est, et sera toujours pour moi, le fruit d'une création humaine.
Vous dites cela comme si l'IA créait entièrement les images par elle-même. Or, on le sait bien, ce n'est pas le cas. L'IA crée une image à partir d'un prompt. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, un prompt, c'est l'ensemble de phrases que donne l'utilisateur à l'IA pour qu'il crée cette image. Et dans ce prompt, il y a les directions artistiques qu'il veut donner à cette image. Actuellement, aucune technologie n'est capable de créer des œuvres sans direction humaine. Vous dites que l'art est fruit de création humaine. Eh bien, les œuvres générées par IA sont aussi le fruit d'un travail d'un être humain. L'IA n'est qu'un outil permettant à ses utilisateurs de représenter facilement leurs idées, idées venant d'un esprit humain.
Je peux comprendre une partie de votre argument. Je suis d'accord sur le fait que les idées créatrices viennent d'êtres humains et que, oui, ce ne sont pas les ChatGPT qui l'imaginent. Mais c'est seulement les idées. Le processus de création est, lui, entièrement réalisé par une IA. Pour toute œuvre artistique, la manière dont elle est conçue, elle compte, elle est importante. Et la confection de ces œuvres, si on les qualifie d'œuvres dans ce cas-là, elle est entièrement laissée par IA. Ça retire une énorme part de l'humain de l'œuvre. Si jamais vous essayez d'apprendre à dessiner, peindre, composer, c'est difficile. Mais tout le monde a dû l'apprendre, et cette difficulté, elle donne un sens à vos œuvres. Si jamais vous avez du mal à faire une peinture, on pourra voir une partie de cette difficulté dedans. Faciliter au maximum ce processus, pour moi, ça permet uniquement de créer des œuvres faciles et vides de sens, de matière, de substance.
Il me semble que un aspect intéressant qui serait à étudier, c'est le fait de prendre un peu de recul et regarder l'histoire de l'art. De nouveaux outils ont été intégrés à fur et à mesure au processus créatif, comme la photo, la vidéo, le numérique. À chaque innovation, sa légitimité artistique a été remise en question. Pourtant, osez me dire que le cinéma ou la photographie ne sont pas des arts. L'intelligence artificielle n'est qu'une nouvelle étape dans ce processus, et refuser de la considérer comme telle, c'est simplement manquer d'ouverture. L'IA permet même, grâce à ses capacités inatteignables pour un humain, une nouvelle forme de créativité. Elle rend possible des associations visuelles, sonores ou narratives encore jamais imaginées auparavant.
Alors, j'ai l'impression que vous faites un petit raccourci. Pour moi, ce n'est pas parce que l'IA est une nouveauté technologique qu'on doit automatiquement l'envisager ou l'accepter comme une forme de création artistique. Ce n'est pas un automatisme. Mais si je reprends les deux exemples que je trouve assez bons, que vous m'avez donné plus tôt, soit la photographie et le cinéma, alors oui, ce furent des nouvelles technologies. Oui, elles ont été critiquées à leur apparition et leur valeur artistique a longtemps été débattue. Mais pour moi, il y a quand même une grosse différence avec l'IA. Ces deux arts, ils proposaient des nouvelles technologies qui n'étaient encore jamais vues auparavant, mais ces nouvelles technologies étaient entièrement contrôlées par des êtres humains. Lorsqu'on prend une photo, c'est un être humain qui choisit le cadre, la lumière, la colorimétrie. Les artistes n'ont jamais délégué une partie du processus créatif à une machine. On revient en partie à un de mes précédents arguments, mais encore une fois, c'est le gros problème des IA. Elles prennent en charge une part essentielle de la création. Un autre problème que cela peut amener, c'est que si la création par IA se démocratise, nous arriverons sûrement à un moment de banalisation de l'art. Nous serons inondés d'œuvres se ressemblant toutes, les unes plus que les autres, vidées de leur valeur symbolique, qui est pourtant essentielle. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez grave. L'art est quelque chose d'important. Et aider à la démocratisation de l'IA, ce n'est pas le protéger, c'est le laisser peu à peu mourir.
Il me semble ici, selon mon humble avis, que le terme banalisation que vous utilisez, il n'est pas bon, il n'est pas choisi correctement. Ici, ce que vous appelez banalisation, c'est simplement le fait qu'on vient faciliter l'accès à la création artistique. Et cela permettra à n'importe qui de créer ce qu'il ou elle veut. Nous pourrons voir l'émergence de nombreux nouveaux artistes, tous capables de nous montrer ce qu'ils veulent créer. En réalité, vous vous opposez surtout à une démocratisation de la création artistique.
Je pense que Je pense que le débat peut toucher à la fin. Merci infiniment à vous deux pour votre échange riche et passionnant. Il est maintenant temps de laisser chacun de notre auditeur se poser la propre opinion lors d'une courte pause musicale.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep.
Rebonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Nous sommes sur la radio Graphite de Compiègne 94.9 FM et nous sommes ici pour parler IA et spécialement IA générative. Dans une première partie de cette émission, nous nous sommes interrogés sur le côté artistique ou non de ces IA et maintenant nous allons nous intéresser un peu plus à leur côté juridique.
Le 26 mars, 2025, ChatGPT reçoit une mise à jour et introduit une nouvelle fonctionnalité. Dorénavant, les internautes pouvaient fournir des images à l'IA, qui générait alors une nouvelle version, avec le style visuel du légendaire studio d'animation japonais Ghibli. Très vite, une tendance émergea sur les réseaux sociaux, chaque personne voulant avoir leurs photos de famille, de vacances, de couple, à la sauce Ghibli.
Mais très vite, certains ingrédients de cette tendance affirmant que ChatGPT voulait le style artistique du studio, c'est que c'est du vol de propriété intellectuelle et que le studio n'autorisait pas jamais cela. Mais est-ce que cela est vrai? Comment le droit d'auteur s'applique-t-il dans ce cas-là? Commençons le projet de ChatGPT. OpenAI, l'entreprise créatrice de ChatGPT, est ainsi accusée de vol de propriété intellectuelle à l'encontre du studio Ghibli pour avoir volé son style et sa direction artistique, tous en utilisant son nom et son image de marque. La parole est à la défense.
Mesdames, messieurs, les jurés, bonjour. Aujourd'hui, mon client se fait injustement attaquer. La fonctionnalité que vous avez tant décriée, qui permet de ghiblifier les images des internautes, n'a jamais volé une seule image vidéo ou même musique du studio Ghibli. Son objectif est de créer, pour chaque utilisateur et internaute, une œuvre disponible facilement aux images du studio Ghibli. L'IA a appris à répliquer le style du studio Ghibli et se sert de ses connaissances pour rendre hommage à ce studio ô combien légendaire. Chaque œuvre est unique et est créée par les utilisateurs de ChatGPT. Et ce dernier a un travail de création derrière chaque image. Et puis, s'inspirer du style d'autres artistes. Mais ce n'est pas un crime. Nous ne sommes pas les premiers à le faire. Énormément d'artistes au cours de l'histoire ont été influencés par leur père. Notre façon de le faire n'est que la prochaine étape dans l'évolution de la création artistique. Nous sommes dans les règles de la législation américaine et de l'utilisation du fair use, qui nous permet d'utiliser les œuvres dans plusieurs contextes, tels que la critique, le commentaire, le reportage d'actualité, l'enseignement, l'érudition ou la recherche. Dans notre cas, étant bien sûr la recherche, l'étude du style artistique légendaire de ce cher studio nous permet d'aider nos IA à créer chaque jour de nouvelles œuvres de plus en plus belles. Je vous dirais donc que malgré ce que nous disent nos détracteurs, nous ne volons rien et nous rendons juste hommage à ce studio.
Chers membres du jury, croyez-vous sincèrement ce que l'on vient de vous expliquer ? Je viens vous dire aujourd'hui que malgré ce qu'affirme mon opposant, OpenAI est bien coupable de vol. Mon client, le studio Ghibli, et ses nombreux artistes ont passé plusieurs années, décennies même, à développer leur art à travers des grandes œuvres, aujourd'hui considérées parmi les plus grands chefs-d'œuvre du cinéma d'animation. Pensez-vous qu'ils réalisèrent tout cela dans l'optique de se faire voler tout leur travail par une IA ? De plus, lorsqu'on connaît l'opinion de Hayao Miyazaki, cofondateur et réalisateur emblématique du studio, sur l'implication de l'IA dans les créations artistiques, qu'il a qualifié, je cite, d'insulte à la vie elle-même, lors d'un interview en 2016, on se doute que le studio n'a jamais donné son accord. Nous nous retrouvons dans un cas de contrefaçon de marque. OpenAI utilise la marque du studio Ghibli, leur direction artistique, afin de vendre un produit qui leur appartient à eux. Or, cela renvoie une image non voulue par mon client. Que ce soit en bien ou en mal, cette image n'est pas souhaitée. D'ailleurs, OpenAI, mon opposant, vient d'utiliser l'argument du fair use, qui est l'argument très souvent utilisé par OpenAI, présent dans la loi américaine. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas uniquement dans le contexte législatif américain. ChatGPT est une IA pouvant être utilisée partout dans le monde, et le studio Ghibli n'est pas une entreprise américaine, elle est japonaise. Nous sommes donc dans un contexte international. Par exemple, moi je peux vous donner... on peut regarder dans la loi japonaise. Selon l'article 30-4 de la loi sur le copyright japonais, les IA génératifs ont le droit d'utiliser des œuvres dans le cadre de l'entraînement de ces dernières, sauf dans le cas où cela porterait un préjudice déraisonnable aux intérêts du titulaire du droit d'auteur. Or, comme je vous l'ai dit plus tôt, cela est le cas. Mon client se trouve actuellement avec des centaines de milliers d'inconnus générant des images avec leur style visuel, ces images pouvant représenter parfois des opinions, des messages ou des valeurs contraires à celles de mon client.
Je vous répondrai en vous disant que ce que nous donnons à nos clients, ce n'est qu'un outil. Il n'est ni bon ni mauvais. Nous leur permettons uniquement de faire libre cours à leurs envies créatives. De plus, nous sommes dans un cas de respect du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle. Mais une direction artistique rentre-t-elle donc dans ce carcan ? Eh bien non. Il est tout à fait autorisé de créer une nouvelle œuvre en s'inspirant d'une ancienne. Les utilisateurs de ChatGPT ne brisent ainsi aucune loi et ne font que créer des œuvres personnelles et pour eux.
Je répondrai à cela que, afin de créer vos fameuses nouvelles œuvres, vous avez dû nourrir vos intelligences artificielles de millions d'images et de vidéos créées par le studio Ghibli et ses artistes afin de lui apprendre à les reproduire. Ce qui revient littéralement à les recopier. Et enfin, vous dites que cela ne respecte pas le droit d'auteur. Mais celui-ci peut s'appliquer si jamais on trouve dans les nouvelles œuvres des éléments reconnaissables d'œuvres précédentes créées. Or, vous ne vous cachez même pas de recopier le style du studio Ghibli. Vous prouvez vous-même votre vol honteux de leur propriété intellectuelle en recopiant sans vergogne tout leur travail.
Merci beaucoup à vous deux. Je laisse maintenant notre jury et auditeur de se faire leur propre avis. Je tiens les membres à leur préciser que la loi n'est pas une tête figée et qu'il est constamment en mouvement. Dans le futur, ce débat pourrait prendre une tournure différente et que de nombreuses législations de l'IA sont écrites et votées chaque année, notamment à propos du droit d'auteur. Je conseille donc à chacun de se renseigner sur ces possibles futures législations.
Maintenant que nous avons vu les grandes entreprises, les grands studios, qu'en est-il des dangers pour les artistes, des petits individus souvent peu protégés ?
Le 2 mai 2023, les scénaristes et les acteurs d'Hollywood entrent en grève. Cette grève étant organisée par les syndicats des scénaristes, la Writers Guild of America, et le syndicat des acteurs, la SAG-AFTRA, cela obligeait l'ensemble des professionnels du secteur à participer à cette grève. Cela a complètement paralysé la production de films et séries hollywoodiennes pendant un temps. Et on peut trouver énormément de demandes de ces grévistes, mais une des principales est la régulation de l'utilisation de l'IA par les grands studios. Mais pourquoi cette demande était aussi forte ? Eh bien, depuis plusieurs années, les intelligences artificielles s'invitent de plus en plus dans les domaines créatifs. Elles permettent aux grandes entreprises de générer des images, des vidéos, des musiques à moindre coût et sans devoir faire appel à des artistes. Parmi, par exemple, les pratiques des studios hollywoodiens que je peux vous donner, qui ont provoqué donc la grève mentionnée un peu plus tôt, on peut retrouver l'utilisation d'IA pour coécrire des scénarios, mais une des utilisations les plus décriées est le scan d'acteur. Cette technique consiste à scanner le visage, le corps, et parfois même la voix d'un acteur, afin de pouvoir ensuite le générer dans un film à moindre coût. Cette surutilisation des intelligences artificielles inquiète de nombreuses personnes travaillant dans les milieux créatifs, redoutant pour la sécurité de leur emploi.
Les mouvements hollywoodiens ne sont d'ailleurs pas les seuls mouvements artistiques qui protestent contre cette utilisation de l'IA dans le monde. Celui dont je vais vous parler est français. Il s'appelle « Touche pas à ma VF ». Ce mouvement rassemble de très nombreux acteurs du monde du doublage français qui ont décidé de s'insurger face aux utilisations de l'IA dans le doublage de films. En effet, de nombreux studios ont déjà commencé à utiliser l'IA afin de reproduire les voix des acteurs originaux des films dans une autre langue, leur permettant ainsi de réaliser un doublage à moindre coût. Si cette technologie s'étendait, cela risquerait de faire disparaître l'univers du doublage. Beaucoup d'acteurs et de doubleuses français s'y sont donc opposés. Effectivement, la France est connue pour la qualité de ses doubleurs et de ses doubleuses et pour cet art si développé dans notre pays. Alors, tous ces artistes ont décidé de créer une pétition qui aujourd'hui a recueilli plus de 200 000 signatures.
C'est un simple illustre bien la peau réelle qui traverse plusieurs secteurs de la création et cette peau est assez justifiée. On peut comprendre d'un point de vue économique l'attrait de l'IA pour les entreprises en permettant d'avoir une meilleure sur la création tout en la coûtant bien moins cher que de rémunérer une artiste.
Mais comment faire pour défendre nos artistes face à cette concurrence déloyale ? Eh bien, pour l'instant, en termes de législation, il n'existe pas grand-chose, malheureusement. C'est pour cela que si on veut s'intéresser aux possibles futures législations, il est important de regarder les demandes des personnes protestant contre les IA, car souvent, ce sont leurs idées qui finissent par inspirer le cadre légal. Il existe aujourd'hui de nombreuses propositions d'encadrement de l'IA. Cela dépend aussi, par exemple, des secteurs, la musique, le cinéma, etc. Mais on peut faire ressortir plusieurs idées générales. Il y a, par exemple, la volonté d'obliger les entreprises à mentionner toute utilisation d'IA dans une œuvre afin que le public soit pleinement conscient du contexte de création de cette dernière. Certaines personnes demandent même la création d'un nouveau statut juridique pour toute œuvre créée ou co-créée par IA. Et la création de ce nouveau statut permettrait donc des financements ou des taxes plus ou moins fortes. On demande aussi une plus grande protection des œuvres par rapport à leur utilisation dans l'entraînement des IA. Énormément d'artistes voient leur œuvre être utilisée et reproduite et se sentent volés. Aujourd'hui, ces propositions restent en grande partie à l'état de revendication. Mais plusieurs pays et organisations internationales s'activent pour mettre en place une législation visant à mieux protéger nos artistes.
Je vous remercie Hector pour cette très belle partie sur les solutions qu'on a contre ce fléau l'IA dans le milieu artistique. Et je vous invite, Hector, à approcher votre conclusion. Je vous le rappelle, on est sur la radio Graphite 94.9 FM.
Eh bien, merci à tous d'avoir écouté cet épisode des Échos de l'innovation. comme vous avez pu le constater tout au long de ce podcast, de cette émission, l'évolution des IA génératives soulève de nombreux questionnements et débats. C'est une technologie assez nouvelle qui se développe et se démocratise très rapidement. Il sera donc assez intéressant dans le futur de s'intéresser aux nouvelles législations qui seront mises en place autour de cette IA. Merci beaucoup à vous deux pour votre participation.
Je te remercie Hector pour cette invitation.
Merci beaucoup et bonne journée.
Et je vais vous souhaiter une très bonne journée à tous. Merci et au revoir.
Intro et outro réalisé par Joseph Brichet et Gabriel Gingembre pour l'émission sous licence Libre Creative Commons CC BY SA.